rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait.
Bonsoir, bonjour, Radio Pleine Lune sur les ondes de Radio Zone, ondes femmes 93.8 MHz. Nous allons passer dans un tout petit instant aux nouvelles des informels. À 19h, le quart d'heure des lesbiennes avec donc notre émission Canicule qui sera suivie par le Memento préparé par Marjolaine et après de la musique. Radio Pleine Lune, ondes femmes 93.8 MHz, restez à l'écoute. Les informels de Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos nouvelles. Tout de suite, une nouvelle locale. Le collectif du 14 juin lance une campagne de solidarité avec le réseau des femmes vivant sous loi musulmane. Le collectif du 14 juin propose, une année après la grève des femmes, une campagne de solidarité internationale en faisant connaître et en soutenant le réseau de femmes vivant sous loi musulmane. Le collectif s'est associé à Solifon, une organisation d'entraide du mouvement syndical suisse, pour lancer une collecte en faveur du projet Femmes et Lois de ce réseau. Le projet consiste à compiler, comparer les lois qui touchent directement les femmes dans des pays et contextes musulmans différents. La recherche aboutira sur la publication d'un manuel international pour activistes de terrain. Le manuel traduira les termes juridiques en langage courant, présentera l'éventail des lois existantes sur un sujet particulier, ainsi que leur application. Enfin, il fera l'inventaire de la jurisprudence utile aux femmes afin de promouvoir des changements favorables. Pour réaliser ce projet, le réseau de femmes sous loi musulmane a besoin d'embaucher une coordinatrice et une documentaliste. La campagne du collectif du 14 juin a donc comme objectif, entre autres, de récolter 70 000 francs pour assurer deux salaires à mi-temps pour la coordination du projet Femmes et Lois. Radio Pleine Lune était présente lors de la conférence de presse du collectif du 14 juin et nous allons vous faire entendre le collectif nous dire pourquoi la solidarité avec les femmes vivant sous loi musulmane est importante.
ça part peut-être d'une analyse, disons, de la situation des femmes dans le monde, où on peut voir que partout dans le monde, la situation des femmes, en tout cas dans le tiers-monde, elle se dégrade. Les femmes ont des conditions matérielles de vie qui sont en train de se dégrader dans énormément de pays, sur la terre entière, bon, suite au programme d'ajustement, suite à tout l'appauvrissement du tiers-monde. Mais que parmi ces femmes-là, qui subissent déjà toutes ces difficultés économiques, il y en a des millions qui subissent en plus un recul, disons, au niveau des droits humains élémentaires. Les lois, au lieu d'avancer dans un sens progressiste, reculent. Alors que dans d'autres parties du monde, disons, je ne sais pas, en Amérique latine, comme ça, il y a un avancement au moins au niveau des législations qui sont plus progressistes, même si la démocratie reste un peu un rêve et que la situation économique des femmes s'aggrave. Au moins, elles ont gagné un certain nombre de droits, alors que justement, dans toute une série de pays, ces droits vont plutôt en arrière. Alors ça a été un peu le point de départ qui nous a motivés à dire « on va soutenir ces femmes-là ». Mais on ne voulait pas simplement, disons, dénoncer les horreurs qui leur arrivent, on voulait surtout mettre en avant que dans tous ces pays, il y a des femmes qui s'organisent, qui luttent et qui résistent, et que c'est à elles qu'il faut donner la parole, c'est à elles de dire finalement comment elles veulent s'en sortir, comment elles veulent se défendre. Donc, notre idée n'est pas de dénoncer l'intégrisme en soi, disons, comme une chose qui est qui nous concerne pas personnellement, qui est une espèce de chose barbare qui se passe à l'autre bout du monde, mais de voir d'abord que l'intégrisme et le fondamentalisme, c'est quelque chose qui peut arriver partout, que ce n'est pas le fait d'une religion. Dans toutes les religions, il y a des composantes intégristes et fondamentalistes, y compris dans les pays dits développés. C'est des choses qui peuvent et qui arrivent encore à tout moment. Et donc, ce n'est pas du tout une défense de l'Occident contre je ne sais quel Orient barbare qu'on veut mettre en avant. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est la lutte des femmes, là où elles sont, dans leur situation, et leur donner la parole à elles, et bon, les aider, disons, à organiser leur lutte.
Ah, tu m'as... Vos dons au projet Loi et Femmes sont à envoyer à Solifon, à Zurich, le compte de chèque postal. Je vous donne le numéro 80-7761-7. Je répète, le compte de chèque postal de Solifon à Zurich, 80-7761-7. Nous reparlerons sur nos ondes, donc sur Ondes Femmes 93.8 MHz, du réseau de femmes vivant sous loi musulmane. Aux États-Unis, les mères célibataires au centre de la campagne américaine. Le vice-président Dan Cale, dans un discours, s'est pris dernièrement à une série télévisée Murphy Brown. Dans l'épisode du soir précédent, donc, de cette série, on voyait l'héroïne, une journaliste de télévision, accoucher seule d'un enfant engendré par son ex-mari, qu'elle ne veut plus revoir plutôt que d'avorter. Ça n'arrange rien à la situation de la famille en Amérique quand la TV met en scène une femme qui dénigre l'importance des pères en ayant son enfant toute seule, s'est exclamé le vice-président. C'est une tradition de la droite républicaine que de dénoncer Hollywood comme un instrument de dépravation. Et c'est le fait de racisme universel que d'expliquer la misère des prolétaires au teint basané par leur insatiable propension à procréer. Venant d'un adversaire impénitent de l'avortement tel que Dan Cale, cette attaque contre les mères seules a fait scandale aux États-Unis. Si le vice-président estime qu'une mère n'est pas à même d'élever un enfant sans un père, alors qu'il fasse en sorte que l'avortement reste légal et sûr, a répondu dans une lettre ouverte la productrice de la série télévisée. Les familles monoparentales aux États-Unis sont en constante augmentation dans l'ensemble de la société américaine. Dans la dernière décennie, le nombre d'enfants nés de mères seules a cru beaucoup plus rapidement chez les Blancs que chez les Noirs, même si ceux-ci comptent 60% de familles monoparentales contre 20% pour les Blancs. Et toutes races confondues, les statistiques montrent que 60% des petits Américains passent désormais une partie de leur enfance dans une famille monoparentale. La situation dans les pays de l'Est, les besoins à l'Est sont énormes, mais la première urgence, selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la première urgence réside dans l'arrêt de 16 centrales nucléaires trop dangereuses et la rénovation de 44 autres du type de Tchernobyl. L'une des grandes peurs de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, comme l'a dit son président Jacques Attali, ce sont les 60 centrales nucléaires d'Europe de l'Est, dont 16 du type de Tchernobyl, qui devraient être arrêtées aujourd'hui. M. Attali a souligné que les 44 autres nécessitaient chacune des réparations urgentes s'élevant à 300 millions d'écus par centrale. La facture immédiate que l'Europe occidentale devrait régler pour éviter une catastrophe serait de l'ordre de 2 à 3 milliards d'écus. En France, les sénateurs approuvent la lutte contre le harcèlement sexuel et l'étendent à la fonction publique. Le Sénat a adopté à l'unanimité le projet de loi inscrivant dans le Code du travail des dispositions protégeant les victimes de harcèlement sexuel, présenté par Véronique Neyertz, secrétaire d'État aux droits des femmes et à la consommation. L'incrimination de harcèlement sexuel est déjà prévue dans la réforme du Code pénal, mais celle-ci n'étant pas encore entrée en vigueur, Mme Neyertz a jugé nécessaire d'insérer sans tarder un dispositif de protection dans le Code du travail. La version du texte amendée par les sénateurs prévoit d'étendre le champ d'application de la loi du secteur privé à la fonction publique. Pour l'essentiel, le texte prévoit, je cite, « qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir refusé ou subi les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, use d'ordre, de menace, de contrainte ou de pression de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ». Le projet, donc, rend le harcèlement sexuel passible de sanctions disciplinaires et protège les témoins de tels agissements. Toutefois, les sénateurs ont supprimé l'article du projet prévoyant la possibilité pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proposer des actions d'information et de prévention en matière de harcèlement sexuel. En Suisse, devant le tribunal fédéral égalité des sexes, victoire pour une fonctionnaire seuleroise. À travail de valeur égale, salaire égal. Cette vieille revendication du mouvement des femmes est devenue une obligation pour les employeurs avec son inscription dans la Constitution fédérale. En tirer les conséquences pratiques ne va pas toujours tout seul. Qu'est-ce en effet qu'un travail de valeur égale ? Souvent, les postes occupés par des hommes et par des femmes ne sont pas découpés de la même manière. Et quand c'est le cas, il demeure légitime de rémunérer davantage un travailleur plus expérimenté ou plus compétent. Difficile donc de mettre le doigt sur la différence de traitement directement liée au sexe de l'employé. Cette situation explique toute l'importance de la victoire de procédure remportée par une fonctionnaire soleroise devant le tribunal fédéral. La recourante conseillère d'orientation professionnelle employée par l'administration cantonale se plaignait d'être placée deux classes salariales en dessous de quatre confrères masculins exécutant exactement le même travail qu'elle. Cette discrimination, faisait valoir l'administration cantonale, n'en était pas une. Il existait des raisons objectives pour la justifier. Même si, dans un cas, cette raison était l'existence d'une erreur en faveur du fonctionnaire de sexe masculin, l'administration assurait que l'expérience professionnelle jouait un rôle déterminant. Et sur quatre hommes cités en exemple par la recourante, deux disposaient effectivement d'une plus grande expérience. Le tribunal administratif soleroy avait estimé pouvoir s'en tenir à ce constat pour rejeter le recours de la lésée. Il avait notamment refusé d'englober dans son examen le cas de plusieurs conseillères d'orientation, toutes placées dans la même classe que la recourante. C'est cette façon de faire que le tribunal fédéral a censuré. Pour que le principe à travail de valeur égale, salaire égal, puisse être utilement invoqué devant la justice, relève le tribunal fédéral, il faut que le juge saisi étende son examen à tous les éléments propres à déterminer si le principe d'égalité est effectivement respecté. Dans le cas litigieux, le tribunal administratif avait l'obligation de s'assurer que le critère de l'expérience professionnelle était vraiment appliqué de façon systématique. Le dossier retourne donc à Soleure avec l'obligation pour le tribunal administratif de prendre en compte, pour déterminer si la recourante est ou non victime d'une discrimination liée au sexe, le traitement de ses collègues féminins. Toujours concernant le tribunal fédéral, celui-ci ne reconnaît pas le couple homosexuel. Dans plusieurs pays, la notion de couple homosexuel se fait timidement une place. Dans certaines entreprises américaines, par exemple, les partenaires homosexuels des employés ont les mêmes avantages sociaux que les conjoints mariés. Au Danemark, on reconnaît même un droit de séjour pour le compagnon étranger d'un ressortissant. En Suisse, rien encore. Et le tribunal fédéral a montré qu'il n'avait pas envie de jouer les pionniers. Pas fini, en effet, la piste d'obstacles administratifs de deux hommes, un Zurichois et un Vénézuélien, qui se sont rencontrés en Amérique latine et essayent depuis 4 ans de mener une vie de couple en Suisse. Dès son retour d'Amérique du Sud, le couple est confronté à l'angoisse du permis de séjour. L'ami sud-américain bénéficie tout d'abord d'un permis d'étudiant pour fréquenter des cours d'allemand jusqu'en octobre 89. Pour la suite, il lui faut absolument légaliser sa présence en Suisse. Las, le coup retombe. Le canton de Zurich fait savoir que le nombre d'autorisations pour les étrangers est épuisé et qu'il n'envisage pas de créer une unité supplémentaire hors contingent. L'ami donc fait recours. L'affaire vient une première fois devant le tribunal fédéral en mars 1992. Ce jour-là, les 5 juges parviennent pas à se mettre d'accord entre eux et décident de reporter leur décision. Un embarras qui doit manifestement autant, si ce n'est plus, aux réticences morales des juges, de certains juges, qu'à la rigueur juridique. À la reprise de l'audience cette semaine, le débat n'a pas été d'une clarté limpide. Une chose est sûre, il y a un pas que la Cour suprême helvétique n'a pas voulu franchir, donner le même droit au regroupement familial, au nom de l'égalité de traitement, aux couples homosexuels et aux personnes mariées. Refuser aussi, mais avec une voix dissidente, le droit au respect de la vie privée tiré de la Convention européenne des droits de l'homme qui aurait pu permettre de s'opposer à l'expulsion. La chose, Coordination homosexuelle suisse, s'est déclarée déçue et furieuse de ces décisions. Pour l'association, le vote du 17 mai signifiait pourtant clairement qu'en Suisse, homosexuels et lesbiennes ne devaient plus être discriminés. Les homosexuels, 5% de la population adulte selon leur porte-parole, ne sont donc pas sortis de leur ghetto juridique et moral. La pratique des mariages fictifs entre des homosexuels et des prostituées, par exemple, confirme un avocat, reste le seul moyen pour eux de contourner les rigueurs de la police des étrangers. Toujours en Suisse, sur le front de l'université, le changement grâce aux femmes. De plus en plus de femmes investissent les sciences humaines et imposent leurs lois aux hommes. À l'heure actuelle, 46% des étudiants en sciences sociales et humaines dans les universités suisses sont des femmes. Elles n'étaient que 25% en 1963 et 35% en 1976. Une proportion déjà relativement importante à cette époque par rapport aux autres disciplines universitaires, mais qui ne laissait que peu de traces dans le développement de la recherche et de l'enseignement, vu que la majorité d'entre elles s'effaçaient, happées par leurs responsabilités familiales. 1989 marque un tournant. Leur proportion atteint 45% et pour la première fois, le Conseil suisse de la science reconnaît leur existence et revendique pour elles davantage de possibilités dans l'enseignement et la recherche. L'Académie suisse des sciences humaines et sociales a consacré son assemblée annuelle de 1991 à la place des femmes dans les sciences humaines, l'occasion de dresser un bilan qui débouche sur une conclusion. Attirées par les sciences humaines qui leur permettent de conduire leurs études de façon relativement autonome, autorisées ainsi à concilier recherches individuelles et vie familiale, elles ont été de plus en plus nombreuses à investir l'université. Le nombre faisant la force, elles ont insensiblement modifié les règles du jeu à leurs avantages, mais peut-être aussi à plus long terme à celui des hommes et de l'université. C'est du moins ce que pense le sociologue bernois Karl Weber. Il recense trois raisons à cette évolution. Ayant pris goût à leur autonomie, les femmes refusent de céder leur place pour s'occuper de leur famille. Elles veulent désormais pouvoir gagner leur vie grâce à leur activité scientifique. Si l'université ne leur laisse pas suffisamment de place pour se développer, elles se déploient, riches de leurs connaissances acquises lors de leurs études, à l'extérieur, dans le monde du travail, effaçant de plus en plus la frontière entre ceux ou celles qui détiennent le savoir et les autres. Face à cette évolution, les hommes ne se sentent plus aussi en sécurité dans leur bastion universitaire. Exposés au regard critique de leurs collègues femmes, ils sont pratiquement contraints de remettre en question la façon dont ils mènent leur enseignement et leurs recherches, se défiant de toute touche d'émotion, cloisonnés dans leur spécialité, asservis à la hiérarchie. Cette expérience douloureuse, toujours selon le sociologue Karl Weber, devrait pouvoir déboucher sur une autre conception de la recherche où hommes et femmes combineraient leurs qualités réciproques. Riche de son expérience d'ethnologue sur une île grecque où hommes et femmes mènent des existences parallèles, farouchement cloisonnées, Jutta Loth en fournit un exemple concret. La recherche ethnologique traditionnelle, conduite par les hommes, obligeait ces derniers à se fier aux descriptions faites par les hommes, objet de la recherche, sur la société des femmes. En revanche, une chercheuse qui accède facilement à la société des femmes, mais qui parallèlement est consciemment exclue de l'observation de la société des hommes en raison des tabous traditionnels, assume cette imperméabilité et le fait savoir. Un fait divers, pas réjouissant. Viol dans l'Intercity Lugano-Bâle. Une femme de 34 ans a été violée dans un Intercity Rome-Bruxelles qui traversait la Suisse dans la nuit. Elle faisait le trajet Lugano-Lucerne seule dans un compartiment lorsqu'elle a été attaquée par un homme qui abusait d'elle plusieurs fois l'espace d'une heure. Le violeur a pu quitter le train sans être inquiété, a indiqué le juge d'instruction. Selon le juge, la femme a été trop choquée pour appeler à l'aide un contrôleur pendant que le train roulait. C'était les nouvelles sur Onde Femmes 93.8 MHz. Je vous rappelle que nous sommes ici dans le studio en direct jusqu'à 20h. Si vous avez des nouvelles à nous annoncer ou bien un concert ou une conférence ou vous voulez nous raconter quelque chose, c'est tout simple. Vous pouvez nous téléphoner. Nos micros sont ouverts. Notre numéro de téléphone, c'est depuis Genève 023. Puis vous faites le 50, le 40, le 51, le 41. Et si vous êtes, vous habitez en Suisse, en dehors du canton de Genève, vous faites le 0033. Bugans nyt on feien bebi, koilo käsen be. Käry itten kasomot, meni shatuk zaromot. Bugans nyt on feien bebi, koilo käsen be. Nyugoluma testen be.
Then out of sight.